VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est midi à Ouagadougou, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Guinée, l'opposition dit ne voir aucun progrès dans les instructions données par le président Alpha Condé à son gouvernement d'ouvrir un dialogue avec les opposants pour favoriser l'organisation d'élections présidentielles et communales transparentes et équitables. On écoute Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition.
Nous allons nous concerter davantage et d'ici vendredi prochain, nous allons donner une réponse écrite au ministre de la Justice quant à notre participation et surtout aux conditions d'ouverture du dialogue. C'est pour avoir un dialogue avec le gouvernement et avec sa mouvance politique que nous avons fait des manifestations. C'est pour avoir ce dialogue qu'il y a eu des morts. Je vous rappelle qu'il y a eu aujourd'hui 64 morts depuis l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, qui est mort par balle et par les forces de l'ordre dans le cadre de manifestations pacifiques. Sans pour autant qu'aucune procédure judiciaire ne soit à ce jour engagée pour identifier les auteurs, encore moins, et traduits devant les tribunaux. Donc, nous sommes demandeurs de dialogue, et dès que l'opportunité va se présenter, nous allons sauter sur le dialogue de manière à arriver, par la concertation, à la solution de la crise guinéenne.
Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition. En Côte d'Ivoire, Pascal Affine Nguessan, président du Front populaire ivoirien et candidat de ce parti aux prochaines présidentielles, a été entendu mardi par un juge dans l'enquête sur l'assassinat du général Robert Gay. Le point avec Félix Yepassi Zimbrou.
Monsieur Affine Nguessan était Premier ministre au moment des faits. Le général Robert Gay a dirigé la junte militaire après le coup d'État du 24 décembre 1999 qui avait renversé le président Henri Konan Bédié. Il avait été vaincu par Laurent Gbagbo à la présidentielle d'octobre 2000 et chassé du pouvoir par la rue alors qu'il tentait de s'y maintenir. Le général Gay, âgé de 61 ans, avait été assassiné ainsi que son épouse le 19 septembre 2002, jour du coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo, qui avait entraîné la prise du Nord et de l'Ouest par une rébellion. Les partisans de Gay accusaient le pouvoir d'avoir tué leur chef, ce que le camp Gbagbo a toujours nié. Aujourd'hui, le petit parti de Gay, l'UDPCI, est allié au président Alassane Ouattara, candidat à sa réélection en octobre prochain.
Au Mali, un millier de manifestants sont descendus hier dans la rue pour aller de la place de la Liberté au centre-ville jusqu'au monument de l'indépendance. Les marcheurs réclament la paix, la stabilité et le retour de la tranquillité dans leur pays avec l'application de l'accord d'Alger signé le 15 mai à Bamako par la partie gouvernementale et les groupes d'autodéfense. La marche était organisée par la coordination des organisations de la société civil du Mali, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La MINUSMA complice, France égale à MNLA, non à la recolonisation, non à la partition, au fédéralisme et à l'autonomie. C'est ce qu'on pouvait lire sur les pancartes et banderoles de cette grande marche.
C'est pour soutenir l'armée malienne, le gouvernement malien et surtout le peuple malien qui souffre aujourd'hui par rapport à l'injustice qui est en train de se passer au nord du Mali. Nous pensons que la MINUSMA est là pour le peuple malien, pour le Mali. Mais on est en train de voir le contraire, la MINUSMA est en train de travailler pour les MNLA et ce qui est leur contraire.
On est venu soutenir l'accord. On ne veut pas que notre pays soit divisé. On soutient notre président Ibrahim Boubacar Keïta pour que le travail qu'il est en train de faire pour le soutenir.
Ils étaient plus d'un millier de Bamakois. Parmi les marcheurs, il y avait des élèves, des étudiants, des fonctionnaires, mais aussi des élus locaux. Ablaye Koné, conseiller municipal.
La paix que le président a tant réclamée et il a signé un accord. Nous voulons la paix pour le développement. Pour un élu communal, tu ne veux que la paix pour le développement de ta commune, pour le développement du Mali. Sans paix, il n'y a pas de développement. Donc nous, les élus, nous voulons la paix pour pouvoir développer le pays. Et sans la paix, sans le développement, rien ne peut marcher. Donc nous demandons à la communauté internationale d'appuyer le Mali pour cette paix.
Anasser Aguirissa, chercheur en gouvernance démocratique basé en France, il était de passage à Bamako.
Je suis très heureux de participer à cette marche. Une marche pour appeler à la paix, une marche pour un Mali indivisible sans fédération, une marche pour aider, pour adhérer au projet d'accord d'Alger. Il est important que tout le monde sache que c'est l'espoir qu'il apporte pour le Mali et nous devons tous aller de l'avant, quels que soient les bords politiques. politique. Et ça, c'est très important, indépendamment des bords politiques. Au Mali, on doit savoir aujourd'hui qu'on doit aller vers cette unité nationale.
Pour ce fonctionnaire qui a battu les pavés, il demande aux Maliens d'être vigilants, car la communauté internationale est venue aider le Mali à sortir de la crise. Docteur Moussa Doukouré.
Alors moi, je dirais que la communauté nous suivra lorsque nous sommes devant. Sans faille, lorsque nous sommes devant, on fait notre travail, la communauté nous suivra. Elle n'a pas le choix. Et c'est ça le plus important pour cette communauté. Jusqu'ici, je dirais, elle est avec nous, avec notre volonté. Mais sans notre volonté, ça ne va pas toucher. Donc tout dépend de nous-mêmes pour entraîner la communauté à entraîner dans cette paix.
Cette grande marche qui a été organisée par la coordination des organisations de la société civile a été suivie dans certaines villes comme Ségou et Sikasso. Les autres régions s'apprêtent à leur emboîter les pas. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Nigeria, la justice a ordonné hier la libération de sénateurs menacés d'extradition vers les États-Unis pour complicité dans un trafic de stupéfiants. Mais l'agence antidrogue nigériane refuse de se plier aux ordres du juge Bagassi Koura.
Buruji Kachamou avait été élu il y a 2 mois au Sénat nigérien. Il avait été inculpé en 1998 par un tribunal de l'Illinois ici aux États-Unis pour complicité de trafic d'héroïne. Le sénateur Kachamou avait été assigné à résidence samedi par l'agence antidrogue en attendant son audience d'extradition. Hier, Ibrahim Bouba, juge de la haute cour de Lagos, a ordonné aux agents de quitter la maison du prévenu. Mais l'agence antidrogue répond qu'elle n'a nullement l'intention de se plier à cette décision. Kachamou avait été arrêté en 1998 en Grande-Bretagne. Il avait réussi à convaincre les autorités britanniques que ce trafic de drogue concernait son frère et que les enquêteurs américains confondaient les deux hommes. Londres l'avait relâché en 2003 et Kachamou était rentré au pays.
Afrique centrale maintenant, crise en RCA. La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a exhorté hier la communauté internationale à verser l'aide promise pour financer les élections d'ici à la fin de l'année. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
À l'ouverture d'une conférence sur l'aide à la Centrafrique à Bruxelles, Mme Catherine Samba-Panza a déclaré que l'ONU avait estimé les besoins de la Centrafrique à 613 millions de dollars pour 2015. Mais seulement 21% de ce montant a été versé. Elle a malgré tout assuré que les élections se tiendront avant la fin de l'année 2015. Le forum de Bangui a décidé le 11 mai de reporter les élections présidentielles et législatives, initialement prévues avant le mois d'août. Mais Florence Limbio, ministre de l'économie, précise qu'il n'y a pas assez d'argent pour les financer car il manque près de 17 millions de dollars.
Au Burundi, l'opposition demande à la communauté internationale de ne pas cautionner les prochains scrutins dans le pays. À son avis, l'organisation des législatives et communales du 5 juin est impossible, vu le désordre politique et sécuritaire actuel. Par ailleurs, la police est à l'œuvre aujourd'hui à Bujumbura pour empêcher tout rassemblement d'opposants à un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza. Selon un journaliste de l'AFP, des tirs soutenus ont été entendus avant la tombée de la nuit hier dans le quartier de Chibitoke, fief de la contestation. Anne Albertson.
Un photographe étranger a indiqué avoir vu un mort et 2 blessés par balle dans le quartier. « Ce sont les miliciens du parti qui tirent », a affirmé un jeune de Chibitoke qui a affirmé les avoir vus. Ils sont vêtus en civil et ont des armes. Plusieurs habitants ont indiqué à l'AFP avoir été prévenus par des amis ou des voisins que de jeunes partisans du pouvoir étaient descendus du quartier voisin de Kamenge, fief du CNDD-FDD, sur Chibitoke. Les tirs avaient cessé à la tombée de la nuit quand le journaliste de l'AFP a quitté les lieux.
À Madagascar, le président conteste aujourd'hui la régularité d'un vote des députés appelant à sa destitution. Le chef de l'État a assuré qu'il continuait de diriger le pays dans une allocution à la télévision nationale. La haute cour doit maintenant se prononcer sur la pertinence de la déchéance votée par les députés. La guerre contre le groupe État islamique en Irak, les forces pro-gouvernementales irakiennes continuent leur nouvelle offensive contre l'État islamique dans la province d'Anbar. Elles concentrent leur attention sur la périphérie de Ramadi, le chef-lieu de la province occupée par les djihadistes, pour bloquer les lignes de ravitaillement de l'ennemi avant d'attaquer directement la ville. L'offensive a commencé hier avec un soutien accru des États-Unis qui ont réaffirmé leur intention d'appuyer à fond les forces pro-gouvernementales après les doutes exprimés par le le secrétaire américain à la défense Ash Carter concernant la détermination des militaires irakiens de se battre contre les djihadistes. Et pour terminer, la police suisse a appréhendé ce matin à Zurich 7 hauts responsables de la FIFA en rapport avec des inculpations de corruption que le département américain de la justice devrait annoncer publiquement aujourd'hui contre 9 officiels élus et 5 fonctionnaires de l'organe suprême du football dans le monde. Il y a eu également des perquisitions à Miami au siège de la CONCACAF. Les arrestations ont lieu alors que la FIFA se réunit pour élire son président. Sepp Blatter, qui dirige l'organisation de 1998, part favori pour rester à la tête du football mondial.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.